Vous êtes.
C'est le rendez-vous signé de Radio Utopie. Les chemins des touristes et des infos difficiles à des tendances reliquées de chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Utopie. Je suis Mme Abolégué Lyon-Moto et je vous y attends.
Le manioc sert d'aliment de base à plusieurs ménages, à plusieurs personnes. Cependant, il contient l'amidon, un produit à multiples usages. Il contient également la cyanure qui est nocive à la santé. Alors, quelles sont les techniques d'extraction de ces deux produits? Nous recevons à présent l'ingénieur Simon Lecombeau. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlons d'abord de l'amidon. C'est quoi l'amidon?
En fait, l'amidon... Il est décidé d'une manière générale que les gens puissent, pour que les gens puissent facilement comprendre.
Mmh.
L'amidon, c'est la substance blanche que nous voyons quand nous prenons le manioc. Mais du point de vue composition chimique, donc ce sont plusieurs molécules de sucre qui se mettent ensemble pour donner cette la substance. C'est ça la.
C'est la substance blanche.
La blanche. C'est ça l'amidon.
Bon, généralement, le manioc a une couleur blanche, non?
Quand on élève l'écorce, oui. Ce que nous voyons de blanc, c'est ça l'amidon, d'une manière générale.
Okay. Oui.
Même si nous prenons par les manioc, les autres substances, par exemple le maïs, ce que nous mangeons dans le maïs, c'est substance, ça, c'est l'amidon. Quand nous prenons par exemple l'igname, ce que nous voyons là à l'intérieur, quand nous élevons la partie superficielle, c'est l'amidon.
Ok, à quoi sert l'amidon?
Ok, l'amidon a plusieurs usages. Chez nous, les humains, les animaux, c'est une source d'énergie. Donc, pour qu'on puisse être en forme, avoir suffisamment d'énergie pour remplir ses tâches, nous devons l'avoir de quelque part.
Mm.
L'amidon, c'est une source importante d'énergie.
L'énergie.
Oui.
Et ce produit est utilisé à certaines personnes, même pour les vêtements, ils utilisent l'amidon. Alors, parlez-nous des multiples usages de l'amidon.
Ok, d'une manière générale, ce qui est plus connu, c'est l'usage alimentaire de l'amidon. Mais à part cela, l'amidon a d'autres usages. Et il est utilisé, par exemple, dans l'industrie de la colle. Il est utilisé dans l'industrie de la colle. L'amidon est également utilisé dans
la fabrication de la colle. On utilise l'amidon
ici. Dans la colle, il y a les principes actifs, et puis il y a ce qu'on appelle l'excipient, la substance qui accompagne la substance active. Donc ça fait qu'on peut utiliser dans cet état l'amidon. Et dans les cas, par exemple, du papier que nous utilisons, la surface sur laquelle nous écrivons, c'est quoi ça, c'est de l'amidon. Dans l'industrie textile, pour ces tissus, le style de coton, pour arriver à avoir un tissu, on utilise aussi également l'amidon.
L'amidon.
Oui. Donc il y a plusieurs usages pour l'amidon.
Donc c'est un produit à multiples usages. Alors comment arriver maintenant à extraire l'amidon du manioc?
Ok, pour ce qui est du manioc, si nous voulons parler de l'extraction de l'amidon, évidemment il existe des procédés. C'est développer et de procéder un peu simple.
Mm-hmm.
Dans l'industrie, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, dans un premier temps, arriver à enlever l'écorce du manioc. Après avoir enlevé l'écorce du manioc, il faut arriver à broyer, vraiment finement broyer la chair du manioc. Donc, c'est ce qui est du blanc que nous voyons à l'intérieur.
Et ensuite, on utilise un pot broyé, généralement.
Bon, il y a plusieurs équipements. Il y a plusieurs équipements. On peut utiliser des râpes. On peut utiliser de broyeurs, vraiment de broyeurs de grande capacité, on est à l'industrie, mais si on est par exemple dans une technologie beaucoup plus simple, on peut utiliser une râpe. Une râpe qui, on arrive à gratter le manioc, on a des particules un peu fines. Alors, on doit arriver à laver cet amidon plusieurs fois pour enlever tout ce qu'il y a comme impureté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas amidon. Parce qu'à l'intérieur de cette substance blanche que nous voyons, il y a aussi d'autres substances qui sont là-bas. Par exemple, la cyanide dont vous parlez.
Okay.
Donc, ça se trouve à l'intérieur de cet amidon. Donc, on arrive à laver ça plusieurs fois et décanter pour séparer l'amidon de l'eau. Et ensuite.
Comment faire? Comment décanter? Comment faire cette opération là?
Disons que d'une manière simpliste, après avoir broyé, vous mélangez la pâte avec de l'eau et vous laissez ça au repos. Vous allez voir après un temps l'amidon qui est lourd va aller au fond et l'eau va se retrouver au-dessus et cette eau-là va commencer à prendre une couleur tendance jaunâtre. Donc dans cette eau-là, on va retrouver toutes les impuretés qui ne sont pas à mi-don. Et vous faut changer ce taux-là plusieurs fois, et au moment où vous arrivez à avoir une eau qui est complètement blanche, à ce moment-là, vous direz que les impuretés sont parties.
Donc, c'est la pâte blanche qui sera au fond, qui est l'amidon.
Oui, c'est ça l'amidon. Mmh. C'est ça l'amidon.
Donc, vous laissez reposer le manioc pendant combien de jours, hein?
Donc, souvent, c'est pas. Bon, okay, si vous voulez avoir mal à l'amidon pur qui n'a pas été décomposé, c'est pas plusieurs jours, le même jour, vous le faites plusieurs fois. Et vous arrivez à avoir votre amidon. Mais par exemple, dans la fabrication de la chicoire, on a aussi besoin de cet amidon. Mm. D'abord, là, il y a certains amidons qui ont été modifiés. D'abord, la racine tubéreuse va être fermentée. Après la fermentation, les mamans vont maintenant extraire. C'est-à-dire, ils vont prendre bien souvent un tamis et mettre la pâte fermentée. Et puis, ils passent beaucoup d'eau. À cette façon-là, ils vont extraire l'amidon et les fibres vont rester dessus. Alors, ça, c'est le produit qu'on a, c'est là-bas, c'est l'amidon.
C'est l'amidon.
Ouais.
Alors, et quand on recueille ce produit, après, comment le conserver? Est-ce qu'il faut le sécher un moment et avant d'aller le vendre?
Évidemment, les produits humides se détériorent rapidement. Donc, si vous voulez garder votre amidon pendant longtemps, mm-hmm. il faudra le sécher. Vous pouvez le sécher soit au soleil, si vous avez utilisé une technologie beaucoup plus simple, ou vous pouvez essayer avec un chauffeur si vous êtes dans une industrie.
Mais est-ce que le marché de l'amidon, par exemple, ici, est très développé?
Bon, il existe beaucoup d'industries, beaucoup de sociétés qui utilisent l'amidon, mais je ne peux pas vous dire l'étendue exacte de ces marchés, mais je sais qu'il y a beaucoup de produits que nous retrouvons ici dans notre pays et qui a besoin de l'amidon. Dans l'industrie du savon, il y a des gens qui utilisent ça. La Mastapco, certainement, doit y avoir à certains moments.
Les gens de l'amidon.
Oui. L'industrie de contreplaqué, c'est ce que nous appelons comme une multiplexe.
Complexe.
Oui, il faut mettre ensemble les différentes feuilles. On utilise la corde dans cette corde-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'amidon. Et dans le Congo, certains industries utilisent l'amidon de manioc.
Mm.
Et l'industrie pharmaceutique a besoin de l'amidon quand vous prenez un comprimé. Dans beaucoup de comprimés, le processus actif est mis dans l'amidon.
Dans l'amidon. Le revêtement.
Donc, c'est que nous voyons de blanc, là.
Oui.
Souvent, c'est l'amidon. Et le processus actif se trouve à l'intérieur de cet amidon.
Donc, c'est un produit important, alors.
Très important. Très important.
Très important. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des paysans, quelque part, à travers le pays, qui font l'extraction de l'amidon?
Bon, disons que je peux dire, dans la fabrication de la chikwang, à un certain niveau, il y a une extraction de l'amidon, qui ensuite va être transformé en chicoire. Mais il existe des gens qui sont pas tellement des paysans, qui, je peux dire, qui sont des transformateurs semi-modernes dans le pays, qui produisent l'amidon. Cet amidon est commercialisé. C'est le cas, vraiment, dans le Bas-Congo, il y a une usine à Louosi, Benikout, qui produit de l'amidon. Et c'est à Kinshasa, je connais une dame des établissements Boulimo, qui produit de l'amidon. Mm. Actuellement, à un niveau beaucoup plus avancé, il y a dans le Bas-Congo, à Madimba, une usine d'extraction d'amidon qui vient d'être montée dans les tout prochains jours. Cette usine deviendra opérationnelle.
Alors, vous avez dit, après avoir séché, vous laissez au soleil pendant quelques jours.
Donc, le plus
votre produit, l'amidon.
Mm-hmm.
Et après, vous allez le recueillir pour mettre dans des sacs.
Il faudrait bien l'emballer. Il faudrait mettre ça dans un emballage qui ne permettra pas une reprise d'humidité. Le plus souvent, on conseille qu'on puisse mettre un emballage plastique. Mettre ça dans un emballage plastique. Et cet emballage plastique pourrait être mis dans un sac en jute ou en polyéthylène.
Mm. Ouais. Donc, il faut beaucoup plus s'exposer au soleil.
Donc, si vous n'avez pas, si vous ne faites pas un séchage artificiel, à ce moment-là, vous l'exposez au soleil. Mais si vous faites un séchage artificiel, bon, avec votre séchoir, dans quelques minutes, ça sera bien sec. Mais au soleil, après peut-être 16 heures de soleil, je peux dire 2 journées de soleil contigu, le produit sera complètement sec. Il faut se chercher que ça se retrouve avec une humidité inférieure ou égale à 12%, pas plus.
Et l'amidon se retrouve seulement dans le manioc ou il y a d'autres cultures qui contiennent l'amidon?
Le manioc se retrouve dans beaucoup de cultures, dans le maïs.
L'amidon?
Oui, dans le maïs. Mm. Dans le maïs, d'ailleurs, l'amidon le plus utilisé à travers le monde, c'est l'amidon de maïs. Donc, nous avons l'amidon dans le maïs, dans l'igname, dans la banane, nos murs. Nous avons cela un peu dans dans ce que nous appelons communément les légumineuses.
Mmh.
Les légumineuses, donc haricots, arachides, donc on retrouve aussi une certaine concentration d'amidon.
Ok, et le maïs, c'est le maïs qui contient plus. Hein. Pourquoi c'est le maïs qui est beaucoup plus. L'amidon du maïs qui est beaucoup plus utilisé?
Bon, les grands consommateurs d'amidon sont les pays tels que les États-Unis, la Chine. Ces pays-là, chez eux, c'est les maïs qui produisent en très grande quantité. Ils ne produisent presque pas de manioc. La plupart des de manioc dont ils utilisent viennent d'ailleurs, viennent des tropiques. C'est comme ça que vous les trouvez, par exemple.
Parce que là-bas, chez eux, ils produisent
Non, ils n'ont pas vraiment beaucoup de manioc. La Chine, on peut retrouver dans les îles un peu de manioc, mais dans une partie de la Chine, il n'y a pas de manioc. Aux États-Unis, dans la partie sud, la Floride, on peut retrouver un peu de manioc. Mais c'est le maïs qui est beaucoup plus répandu. Alors, ici, c'est la maison du maïs.
Les questions des préoccupations composées le 081 890 63 94. Bien là, c'était des techniques simples pour extraire l'amidon. Maintenant, parlons de la cyanure, qui est contenue également dans le manioc. C'est quoi d'abord, pouvez-vous expliquer c'est quoi la cyanure?
En fait, dans certaines plantes, pas seulement les maniocs, on retrouve ce que nous appelons la cyanure. Donc, qui est la plante utilise comme pour mécanisme de protection. Ces substances, le plus généralement, quand ça se trouve encore dans la plante, ce n'est vraiment pas la cyanure libérée, mais il est lié souvent à d'autres composés, telles que les molécules de sucre.
Donc on peut dire que c'est une substance dangereuse.
Oui, c'est
bon. Qui est contenue dans le manioc.
Bon, ok. Quand c'est, ça se retrouve dans l'organisme humain, à des très grandes quantités, oui, c'est nocif. C'est une substance qui est là pour la protection de la plante. Mais il existe des techniques pour éliminer ces substances avant la consommation, par exemple, du manioc.
Et cette substance se retrouve dans tous les maniocs que nous consommons.
Oui, dans tout ce que nous avons comme manioc, nous avons ça dans le feuille, dans la tige, dans les racines tubéreuses que nous mangeons. Mais en fonction de variétés, il y a des variétés qui contiennent beaucoup d'acides, qui peuvent produire beaucoup d'acides cyanuriques, et d'autres qui en produisent très peu.
Alors, comment extraire la cyanure? Lorsque vous avez votre manioc, est-ce qu'il faut-il commencer par l'amidon ou la cyanure, ou la cyanure avant et puis l'amidon après?
En fait, par exemple, dans l'extraction de l'amidon, quand vous faites déjà de la, quand vous broyez la chair du manioc, déjà il existe des enzymes, des substances qui sont là, qui vont décomposer. Qui vont décomposer les substances responsables de la production de la cyanure. Et quand vous mélangez ça avec de l'eau pendant les lavages, ces substances qui est souvent transformées en cyanure va passer dans l'eau. Ça passe dans l'eau et de cette façon-là, la substance, quand vous jetez l'eau, donc la cyanure aussi est en train de partir.
De partir au même moment.
Oui, c'est ce que, par exemple, dans le cas, par exemple, quand nous produisons le foufou, par la technique qu'on appelle de ruissage. Nous prenons les racines tubéreuses du manioc, nous mettons ça dans l'eau. Pendant que c'est mis dans l'eau, ces substances se dissout dans l'eau. Et la cyanure aussi qui est produite part dans l'eau. Et quand nous mettons, prenons aussi, quand nous passons au séchage, au soleil, quand le manioc se sèche, la cyanure qui est volatile déjà partie de 28 degrés, c'est pas possible, en avant encore, ça se vaporise. Voilà un peu ce que je faisais.
Donc après, vous allez prendre votre manioc, il n'y a pas de danger.
Si la transformation est bien faite, il n'y a pas de problème. Dans le foufou, quand vous avez fait un bon ruissage qui a pris 3 à 4 jours, en tout cas, généralement, presque la totalité est partie. Si les livres des quantités réduites, ce sont des quantités qui ne peuvent pas causer beaucoup de problèmes. Dans la préparation de la chicoine, également la technique de
ruissage. Les faire reposer, les mettre
dans l'eau. Oui.
Généralement, ces mamans connaissent bien ces techniques-là.
Et évidemment,
ceux qui font la chicoine-là.
Oui, évidemment. Mais à part ça, aussi, quand on râpe le manioc, dans certaines techniques de transformation de manioc, on ne le met pas dans l'eau, on râpe. dont on gratte les maniocs, ça forme une pâte. Quand vous pressez cette pâte et que l'eau du manioc sortait, cette eau amène aussi avec elle cette composé qui est à l'origine de la production de l'acide cyanhydrique. Et après, c'est le soleil, le produit aussi est de bonne qualité. Donc,
donc il y a deux techniques, hein, le rissage et cette technique-là.
Oui, le rapage.
Le rapage.
Le rissage, c'est une technique très importante. Et le rissage, ce sont les deux grandes techniques recommandées.
Mm. Bien, l'auditeur en ligne, Jackson, il nous appelle de Béni, au nord Kivu. Vous voulez également intervenir, composez le 081-890-63-94. Jackson, vous êtes à Béni, bonjour.
Bonjour, c'est Jason, vous voyez à Beni.
On vous écoute.
Et ça passe à notre invité. Mais j'aimerais demander seulement si la consommation excessive de l'amidon n'a pas une conséquence nuisible face à la santé de l'homme. Merci.
Merci.
Ok, la consommation de l'amidon excessive de l'amidon, ça n'a vraiment pas de conséquence si on n'a pas un problème assez particulier.
L'amidon n'est pas dangereux.
Non, l'amidon c'est pas dangereux. Sauf si on est dans une situation de maladie, à ce moment-là, on va commencer à avoir un peu de réserves. Puisque l'amidon en lui-même n'est pas nocif. Si c'est un amidon qui contient des substances telles que l'acide cyanhydrique, à ce moment, il faudrait éliminer cet acide cyanhydrique pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, la consommation, ce n'est pas nocif. Donc, chaque fois que nous prenons le pain, donc c'est l'amidon que nous prenons en grande quantité. Quand nous prenons le biscuit, c'est l'amidon que nous prenons en grande quantité.
Bien, Roger, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Roger.
Oui, moi aussi j'ai des préoccupations très intéressantes à demander à notre invité.
Oui.
Bon, la première est celle-ci. Quelle quantité de manioc faut-il consommer par jour pour emmagasiner l'amidon qui est bien prévu selon les spécialistes? Bon, la deuxième question, comment conserver les maniocs? Parce que nous savons que dans les opérations de conservation des maniocs, il y a les opérations de manioc où les maniocs sont réfléchis dans les étangs. Mais les étangs là, il faut voir dans quel état se trouvent ces étangs. Il y a des déchets en bas de l'eau, il y a aussi des saletés, il y a toutes sortes de saletés, on peut dire ça. Mais est-ce que de tels maniocs peuvent-ils contribuer à avoir l'amidon dans le corps d'une personne ou bien ça va faire progresser les maladies que nous avons? Merci.
Merci Roger, ingénieur Simon.
Ok, ce que je pourrais dire, quelle quantité de manioc recommandée? Évidemment, ça peut-être qu'il faudrait recourir aux spécialistes des nutritionnistes qui vont vous dire quelle quantité d'énergie vous avez besoin par jour. Mm. Et cette énergie, une partie proviendra certainement de l'amidon, une autre va venir des huiles et autres, tout ce que nous mangeons, donc les adultes, et jusqu'à près de 2500 calories par jour. Et là, peut-être qu'on va avoir des réponses très exactes pour aller auprès des nutritionnistes.
Mm-hmm.
Mais pour ce qui est de la deuxième question, la conservation de...
La manière dont vous parlez, le roussage s'est fait, on laisse les maniocs dans des étangs qui ne sont pas très très propres, il y a beaucoup d'impuretés.
Oui, évidemment, cette énergie traditionnelle n'est pas très très bonne. Il est mieux de faire son roussage dans des bacs de très bonne qualité, il faut qu'il n'y ait pas de contamination. Quand nous mettons ça dans l'eau dans la rivière, dans cette eau, il y a beaucoup de choses, il y a des microbes qui peuvent avoir certaines contaminations, qui pourraient avoir certaines conséquences. Mais actuellement, il existe des techniques modernes, recommandées, qui aboutissent à des produits de très bonne qualité. Mais si vous prenez...
Si vous avez par exemple le manioc, la couleur d'une couleur blanchâtre, c'est-à-dire que quelque part il y a eu des impuretés, nous avons infiltré. La parfois vous avez le manioc, c'est très tout blanc, tout blanc, mais il y a aussi d'autres maniocs qui ne sont pas d'une couleur blanchâtre. Même les succombes aussi, on les voit.
Bon, évidemment, c'est que vous pouvez voir où est-ce que vous vous retrouvez. Donc, par exemple, quand vous êtes aussi dans la ville de Kinshasa, les gens cherchent à voir un manioc, un foufou, qui doit être tout blanc. À ce moment-là, si vous faites un bon rinçage, un bon séchage, vous allez vous retrouver avec un produit blanc. C'est quand ce produit n'est pas blanc, à ce moment-là, on commence à se poser un peu de maintenant des questions. Ça voudrait dire, si vous trouvez d'autres couleurs sur le manioc, faudrait se poser par quoi. Et plus souvent, c'est si le manioc n'a pas été bien séché, il y a des moisissures, donc des micro-organismes qui vont se développer dessus, et qui causent ces couleurs que nous retrouvons sur les manioc. Mais quand vous êtes, par exemple, dans l'est du Congo, au Kivu, vous avez une autre technique pour éliminer la cyanure du manioc. Donc, ils mélangent certains micro-organismes avec le manioc frais, et de cette façon-là, ce manioc arrive à se libérer de la cyanure. À ce moment-là, vous dites que vous savez que tout qu'on a utilisé, mais aussi certains micro-organismes, mais non, souhaitables pourraient aussi se retrouver là-dedans.
Bien. Docteur Kipasa nous appelle de Kikwit. Blanchard se trouve à Lubumbashi. Docteur Kipasa, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel.
On vous écoute.
Oui, c'est juste pour lui demander, nous avons beaucoup de problèmes avec les mamans pour le rinçage du manioc. Est-ce que tu peux me dire la concentration de cyanure, la cinétique de la concentration de cyanure, après combien de temps, le premier jour, le deuxième, le troisième jour, si on garde le manioc pendant un, deux ou trois jours, quel est le taux de perte de cyanure quand on a des difficultés pour convaincre les mamans combien de temps exactement il faut le faire? Et ensuite, il dit qu'en laissant le manioc dans un bocal, c'est mieux de les laisser dans l'eau courante, disons l'eau de rivière, il y a des problèmes de contamination. Mais je voulais savoir, en les laissant dans le bocal, c'est tout là, parce que les mamans les gardent dans des endroits où il y a des problèmes d'eau, par exemple, vers Kaemba. Ils les gardent ces taux là plusieurs jours. Et il n'y a pas de problème avec les résidus en cyanure qui laisseraient ce qui est causé, c'est qu'on a la paralysie, par exemple, avec
Bien, merci docteur Kipasa. Blanchard, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, c'est Blanchard Kipasa.
On vous écoute.
Je voulais juste savoir l'effet négatif de l'amidon dans les corps d'un homme et puis quel est le composé chimique de l'amidon.
Bien, merci Blanchard, l'effet négatif de l'amidon et la composition chimique. Monsieur l'ingénieur Simon.
Ok, je commencerai par les tout derniers. Pour ce qui est de la composition chimique, j'ai dit que l'amidon, ce sont plusieurs molécules de sucre qui sont mises ensemble. Ce sont les glucoses qui sont mises ensemble. Ce qui fait que maintenant, quand nous mangeons cet amidon dans le corps, quand il y a des compositions, il y a maintenant du sucre qui est produit. Bon, évidemment, si quelqu'un a certains problèmes, par exemple, de sucre,
diabète,
de taux élevé de sucre dans son sang, évidemment, à ce moment-là, c'est là, il doit faire très attention. Et pour ce qui est du premier intervenant,
docteur qui passe là, des suites.
Évidemment,
le cycle de la concentration de la cyanure. Il dit combien de temps pour aider les mamans qui font le rissage, combien de temps laisser le manioc dans l'eau.
Évidemment, on a pu se retrouver en 2 à 3 jours. Après 2 à 3 jours de rissage, presque 90% de cyanure se retrouve dans l'eau. Donc, il faut recommander le rissage de 3 jours idéalement, mais de 2 à 3 jours, ça fait aller. Et évidemment, le mieux serait qu'après un rissage, dans un puits, dans un bassin, de renouveler ces taux-là. Si vous ne renouvelez pas ces taux-là, évidemment, vous aurez beaucoup de quantités, vous avez certaines quantités résiduelles de cyanure dans ces taux-là, ce ne serait pas très intéressant. Il est mieux de renouveler l'eau de ruissage.
Le ruissage dans le lac. Hein. Après combien de temps? Après 2-3 jours.
Chaque l'eau qui est transformée, vous avez l'eau aussi, ça fait 3 jours de transformation. Vous évacuez cette eau-là, vous mettez une eau beaucoup encore fraîche. L'idée, c'est cela.
Il a parlé de Caïn Baou, il y a un problème, une maladie qu'on appelle Kondo qui est causée, semble-t-il, par la Seigneur.
Oui, le Kondo, donc, c'est une maladie. Dans son développement, la cyanure est impliquée. Mais ça dit que, bon, quand vous avez certains taux résiduels de cyanure dans ce que vous mangez, que ça se retrouve dans l'organisme, le corps lutte pour le transformer, pour détoxifier cette cyanure. Mm. Ça utilise des acides aminés, ça utilise les acides aminés soufrés. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de protéines dans l'organisme, à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans ces situations qu'on appelle le conte. Ces situations-là se retrouvent, bon, c'est une condition qui est un peu fréquente dans certaines parties de Bandundu. Mm. Donc, le mieux serait dans ces coins-là, si nous pouvons, soit le conseil de faire le ruissage pendant 3 jours, je sais qu'ils ont dépuisé d'eau, et eux aussi, s'ils peuvent pas faire le ruissage, mais ils peuvent râper les maniocs, presser pour sortir ces jus-là du manioc, et après c'est ça, ils vont se retrouver avec une farine qui sera de bon, qui ne va pas avoir beaucoup de quantités résiduelles de cyanure. Et comme dans ces parties, on a pu déménager le manioc avec le maïs, à ce moment-là, il pourrait manger un couteau qui serait de bonne qualité. Bon, je sais aussi, dans ce développement de Kondo, on parle plus du manioc, mais nous devons se faire très attention. Dans certaines parties de Bandundu, ils mélangent le millet au manioc. Le millet a aussi certains types qui contiennent de l'acide cyanurique. Donc, la question ne devrait pas être seulement sur le manioc.
Donc, quand on mélange le millet et le manioc, il y a une concentration de la cyanure quelque part.
Vous allez sur votre ruissage, vous avez éliminé. Oui, mais si vous amenez une variété de millet,
vous
allez vous retrouver aussi avec le cyanure dans votre foufou. Voilà, c'est une combinaison de facteurs qu'on devra, on devra faire très attention.
Bien, merci beaucoup à l'ingénieur Simon Lokombo, expert en technologie post-récolte. Merci d'avoir répondu à notre occupation et à la prochaine.
Merci.